J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 23e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B le romancier lyonnais Gérard Coquet dans le deuxième tome de sa triade irlandaise Moorland, est paru le 4 avril 2024. Gérard, bonsoir.
Bonsoir.
Tu préfères le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente?
Peu importe. On est un peu tout.
Oui, oui.
Quelle est la vraie différence entre toutes ces désignations?
Ça dépend des gens. Il y en a qui parlent. Ça dépend des auteurs, ça dépend des romancières. Bien, quel était ton rapport à la lecture et à l'écriture lorsque tu étais enfant puis adolescent?
Alors, quand j'étais gamin, j'ai appris à lire vraiment dans la guerre des Michards. Parce que j'étais en pension et on était un petit peu obligé de lire ce genre de choses. C'était passionnant, il y avait des choses très bien, il y avait des choses très ennuyeuses. Donc j'avais pris l'habitude de lire en cachette. Et quand je lisais en cachette, je lisais du San Antonio. Parce que voilà, donc ça m'est resté un petit peu aussi dans ma forme d'écriture. J'aime bien le noir, puisque j'écris du noir. J'aime bien qu'il y ait un peu d'humour dedans.
L'écriture pour toi donc, débute avec celle de la chanson pour un groupe de musique, oui. Où tu étais bassiste, oui. Et parolier. Quel style de musique jouais-tu?
Jouiez-vous? Oui, ouais, on jouait. C'était du folk, rock folk. Il y avait la steel guitare, il y avait deux guitares, une batterie, une basse. On jouait avec des gens de Bourg. D'ailleurs, il y avait une des chansons qui s'appelait Bourg-en-Bresse Blues. Je te retrouverai, je te ferai passer, ouais, 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 si ouais. Je dois la voir quelque part.
Ah bah oui.
Je sais qu'il y avait une phrase qui disait « Feu, stop et villa » parce que ça ressemblait à Bebop et Lula. Et ça parlait de Bourg-en-Bresse.
D'accord.
C'était Bourg-en-Bresse Blues.
Pourquoi bassiste? Tu n'avais pas envie de te mettre en avant comme peut-être un chanteur, un guitariste?
Parce que c'est plus facile de jouer de la basse que de jouer de la guitare. Quand on est devant et qu'on joue de la guitare, souvent on nous demande de chanter. Je chante comme une gamelle, donc c'était pas jouable. Mais j'aurais bien aimé jouer de la guitare électrique solo. J'adore les solos de guitare électrique.
T'as jamais essayé?
Non, vaut mieux
t'as
pas.
T'as jamais osé?
Non, j'ai jamais osé.
Et t'écrivais des textes en français?
En français.
T'as jamais eu envie de chanter tes propres textes?
Non, j'avais un ami chanteur qui les chantait bien mieux que moi, qui chantait très très bien d'ailleurs. Je les avais regroupés dans un registre qui s'appelle Coup de pied à la lune, mais qui est paru à compte d'auteur dans une maison d'édition. Donc il y en a bien dedans, il doit y en avoir une quarantaine.
Sans la musique, tu serais devenu romancier?
Pas sûr, parce que la musique m'a amené aux paroles de chansons et les paroles de chansons m'ont amené à écrire. Un texte de chanson, c'est assez frustrant, donc c'est court. Il y a des rimes, il y a des pieds, donc il faut trouver le moyen d'aller un peu plus loin et je me suis lancé dans l'écriture. Voilà, c'est comme ça que le roman est arrivé.
Outre la musique et l'écriture, bah, tu as une autre passion, bah, c'est celle des voyages. Que recherches-tu lorsque tu vas dans d'autres pays, d'autres continents?
Je cherche ce qui me semble vrai. L'Irlande, par exemple, c'est un pays très minéral, c'est sauvage, donc je vais chercher ça. J'essaye de découvrir chaque fois une ou deux choses qui sont pertinentes dans ce pays-là.
L'authenticité?
L'authenticité, oui. L'authenticité des gens, surtout.
Un de tes pays de prédilection, donc c'est l'Irlande, tu le disais.
Oui.
Il n'y a pas que la pêche à la mouche et puis l'authenticité qui t'a attiré sur cette île, pas comme les autres.
Assez particulier, oui, l'Irlande, c'est un mélange de plein de choses. D'abord, c'est une terre de combat, c'est une terre de mythologie, c'est une île. Et pour moi, l'Irlande est une femme, parce que c'est une île qui est à la fois sauvage, revêche et séduisante.
On peut dire la Irlande, alors?
La Irlande, voilà.
Ah ouais. Tu as eu une carrière professionnelle bien remplie. Alors, quelle était la place de la lecture et d'écriture pendant cette période ?
Alors, pendant cette période, j'écrivais des chansons, mais j'ai pas écrit de romans. J'ai commencé tard. En fait, j'ai commencé à écrire des romans quand j'ai arrêté d'écrire des chansons, donc il y a une quinzaine d'années. J'avais un peu plus de temps. Autrement, je lisais, oui, j'ai toujours lu, moins que certaines lectrices...
Qui viennent te voir
qui viennent
au salon.
Me voir en salon, que je rencontre. Mais oui, j'ai toujours aimé lire, oui. On ne peut pas écrire si on ne lit pas, de toute façon.
Et tu lisais essentiellement ?
J'aime bien la belle écriture. La conséquence d'avoir écrit des paroles de chansons et de les avoir mises, enfin, d'avoir participé à leur mise en musique, c'est que je suis très attaché à la musicalité des phrases. Donc, j'ai du mal avec les romans dont l'intrigue est bonne, mais dont la présentation de cette intrigue sous forme littéraire est faible, moins bonne. Voilà.
Les artistes
Ah ouais, j'aime bien...
De chevet ?
De chevet, j'en...
À part Sant'Antonio.
À part Sant'Antonio, bien sûr. Non, mais Sant'Antonio, c'est parce que c'est drôle et que quand j'étais en pension, les occasions de rire étaient rares.
T'en relis encore ?
Ah ouais, j'adore en lire un de temps en temps,
Toujours.
Au hasard. Je les ai tous, pratiquement. Non, j'ai beaucoup aimé. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est Le Cercle de la Croix de Yann Pierce, parce que c'est une intrigue très simple. C'est le meurtre de quelqu'un par quelqu'un, et c'est présenté de trois points de vue différents. C'est un roman historique, et c'est remarquablement écrit. Voilà.
Alors, on parlait de voyage. Ton premier livre, si je me trompe, est paru en 2009, et s'appelait L'Alphabet d'Estras.
D'Esdras. Ah oui, alors celui-ci, oui, c'est le tout premier.
Voilà. Et il se passe déjà en Irlande ?
Il se passe déjà en Irlande. En fait, ça a été le galop d'essai. Il a été, je crois j'ai dû avoir 80 lecteurs sur ce livre-là. Donc, mais c'est celui quand même qui a tout déclenché, oui.
Tu enchaînes ensuite avec deux romans policiers, Malfron,
oui.
Les fantômes de la Combe et Les mémoires de Mathilde.
C'est ça.
Et tu t'es arrêté là côté Malfron. L'Irlande et le Connemara t'appelaient.
Voilà. Après Malfron, qui se passe dans les monts du Lyonnais, j'ai eu envie d'écrire sur l'Irlande.
Ou de revenir en Irlande ?
J'y allais à la pêche, j'ai des amis là-bas, donc j'avais envie d'écrire sur ce pays-là. J'ai commencé par Connemara Black, qui était sorti par... La trilogie est sortie chez Gigal et elle est ressortie en étant réécrite dernièrement. Voilà.
Elle commence à être sortie.
Elle n'est pas finie. Voilà, on en est au deuxième.
J'ai lu quand même quelque part que ton premier roman n'était pas à la hauteur de l'Irlande. Tu avais envie de t'excuser romancièrement parlant.
Oui, il était gauche le premier. Un premier roman est souvent tordu. C'est un peu une patte de chien.
Et tu ne voulais pas rester sur une...
Non, je ne voulais pas rester sur cette impression parce qu'il me dérangeait ce bouquin et... J'aime pas qu'on en parle d'ailleurs.
L'Irlande méritait mieux ?
Je pense. Enfin, je trouve que.
C'est toi qui en parles de mieux.
Il y avait trop de. Ça avait été écrit avec un frein à main, donc je me lâchais pas.
Bien. Le résultat, donc, c'est d'envie de s'excuser, de repartir sur de bonnes bases. Et la sortie entre 2017 et 2021 de trois romans aux éditions Gigal.
Oui.
Et puis, le 31 août 2023, paraît chez M+ Éditions au Grus Point, la triade irlandaise, tome 1.
Oui.
Et le 4 avril 2024, toujours chez M+ Éditions, Moorland, la triade irlandaise, tome 2. Deux refontes complètes de Connemara Black et de L'Aigle des Tourbières.
C'est ça.
C'est une demande de l'éditeur où, pour la deuxième fois, tu n'étais pas satisfait des trois romans parus aux éditions Gigal.
C'est lié à une évolution d'écriture. À cette époque-là, quand Gigal s'est arrêté, j'étais en train d'écrire autre chose. Et cette autre chose m'a rapproché de Yann Manouk. C'est là qu'on a décidé de partir ensemble.
Mm-hmm.
Donc on a commencé à écrire ensemble « Souviens-toi de Sarah », un peu à la manière d'un test. On ne savait pas bien où on allait. D'abord, on ne savait pas si on allait pouvoir écrire ensemble. Et puis, le fait d'avoir réussi cet essai, ce test, ça m'a donné envie de reprendre les anciens livres, de les relire avec un autre œil. Et ça m'a donné, par voie de conséquence, envie de les réécrire.
Tu appelles tes derniers romans La triade irlandaise. Alors, pourquoi triade et pas trilogie ? Les sujets sont pourtant liés et se font suite. Comme la trilogie.
Oui, c'est un peu une trilogie. J'ai trouvé que Triade, ça changeait de trilogie. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Manouk.
Ah ouais, d'accord.
Enfin, c'est plus exactement Françoise, l'épouse de Manouk.
Ça fait plus irlandais, Triade, que trilogie, même
non,
pas.
Non, je trouvais que c'était sympa.
La Triade, donc, est littéralement la société de l'harmonie des trois, c'est-à-dire l'harmonie du ciel, de la terre et de l'humain. C'est le cas d'Irlande, même s'il manque l'eau.
Oui, mais l'eau est présente partout là-bas, donc ils n'en parlent même pas. Oui, il manque l'eau, bien sûr qu'il manque l'eau. Cette triade, c'était la volonté de boucler un cycle d'écriture. On me demande souvent, alors, et le quatrième, il vient quand ? Comme on me demandait pour les Malfronts, alors, et le troisième, il vient quand ? C'est difficile quand on sort d'un registre, qu'on a entrecoupé tout ça d'autres livres, de revenir dans le registre précédent.
La triade est aussi l'association criminelle de la mafia chinoise.
Ouais,
cela pourrait être également celle de la mafia irlandaise ou de la mafia albanaise.
Alors, plus la mafia albanaise que la mafia... Ouais. Les mafias irlandaises, elles se sont expatriées. Bon, il doit y en avoir un peu, bien sûr, mais elles ne sont pas très significatives. L'Irlande a connu un exode massif à la fin du 19e, vers les années 1847. Et les Irlandais sont partis de l'autre côté de l'océan. Certains sont allés aux États-Unis, d'autres au Canada. Et les mafias irlandaises, qui se sont coltinées avec les mafias italiennes, viennent de là. Donc elles ont traversé l'océan, en fait. C'est un peu expliqué cet exode dans le deuxième bouquin qu'on a écrit avec Manouk, qui s'appelle Outaouais.
Tu as écrit La Triade comme on écrit un roman policier classique.
Non, pas vraiment.
Est-ce que c'est un roman policier pour toi ?
Non, un roman policier se définit comme étant une enquête menée par un policier. Alors, là, c'est une fliquette,
bien sûr.
Mais c'est pas une enquête, c'est une réaction à un certain nombre de choses. C'est pas vraiment une enquête au sens maigret du terme, on va dire. C'est plus un thriller d'aventure. Quand je le présente, on me demande « Vous avez écrit quoi ?» Je dis « C'est un thriller irlandais, voilà. C'est pas un policier irlandais, c'est un thriller irlandais. »
Alors, la triade irlandaise se passe dans une région, le Connemara, qui sent bon l'Irlande profonde, mais pas seulement. Une région pleine d'histoires. Il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser des personnages et des légendes.
Ah oui, il y en a de partout là-bas. De toute façon, un Irlandais, quand il ne sait pas répondre à une question qu'on lui pose, il vous embrouille avec des noms de la mythologie irlandaise qui sont totalement imprononçables et incompréhensibles. Donc on s'égare, et on ne comprend plus. Non, c'est naturel chez eux, c'est complètement naturel. Les Tuatha Dé Danann, les Fomoirs, les peuples qui vivent sous la terre, sur la terre, il y en a de partout. Des Banshees, il y a tout ce qu'il faut.
Le principal personnage donc, des deux premiers tomes de la triade irlandaise est une femme, Ciara McMurphy, une policière de la Guarda Siochana, c'est ça. La police irlandaise.
Oui.
Elle est à la fois du côté de la loi et est, par son histoire, du côté de ceux qui ont lutté par les armes contre la présence britannique en Irlande. Alors, pourquoi une femme ?
Parce que l'Irlande, pour moi, c'est une femme. Quand j'ai commencé à écrire cette triade, j'avais pris un héros masculin. Et quand on prend un héros masculin en Irlande, où il y a beaucoup de pubs et où ça picole beaucoup de Guinness et de whisky, on tombe vite dans le cliché. Donc, avec une femme, j'évitais ce cliché, en grande partie. Et ça collait mieux avec le caractère du personnage dont j'avais besoin.
Alors, pourquoi être policier en Irlande est mal vu ? Quelle image à la Guardia Siochana et d'en fait partie Ciara McMurphy ?
Alors, la police en Irlande n'est pas mal vue. La police en Irlande est mal vue par ceux qui étaient des indépendantistes. Les indépendantistes, ils commettaient des actes répréhensibles et de fait, ils n'avaient pas besoin de la police dans les pattes. La République d'Irlande, c'était surtout organisé en bande arrière. C'était un conflit entre les catholiques et les protestants, donc c'était la République d'Irlande. Mais le gros point d'action, c'était Belfast, c'était l'Irlande du Nord.
C'est aussi le combat entre les Irlandais et les Britanniques quand même.
Ah, complètement.
Il n'y a pas que de la religion là-dedans.
Les protestants, pour simplifier, les protestants étaient du côté des Anglais, les catholiques étaient du côté des indépendantistes.
Vous avez un style d'écriture qui sent à la fois bon les San Antonio avec un humour qui lui ressemble et une façon de raconter des histoires qui vous appartient. On a l'impression de vivre ce que vous racontez comme si on y était, comme si on le vivait.
Le décor est important. Il y a plusieurs pieds à la chaise. Il y a l'intrigue, il y a les personnages et il y a bien sûr le décor. Alors après... C'est comme un tableau, il y en a qui peignent à la manière figurative et d'autres qui peignent à la manière impressionniste. Moi, j'aime bien le détail, donc j'en vais peut-être trop, mais je pense que quand on décrit un bar dans lequel on rentre, on peut dire il y a de la fumée et il y a beaucoup de monde, voilà. Et puis on peut décrire un personnage qui boit une pinte. Et je préfère cette deuxième solution. Ouais.
Vos personnages, justement, traînent tous derrière eux à une histoire qui est tout sauf simple. Ils ont tous une face cachée, souvent noire. Il y a cette dualité, ce yin et ce yang. Vos personnages ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont souvent les deux à la fois.
Un peu comme tout le monde, non ? Tout le monde est comme ça.
Certains un peu plus quand même.
Ah bah certains sont un peu plus blancs que noirs ou noirs que blancs, sans vouloir tenir pour ouais. homophobe du tout. Mais c'est oui, c'est comme ça. On a tous une part d'ombre, on a tous une part de secret, on a toujours quelque chose qui nous révèle à un moment donné et qui nous fait aller dans une direction ou dans l'autre. C'est pas linéaire. C'est la chance de pouvoir créer ces personnages qui est fascinante dans un roman. En toute modestie, mais quand on écrit et qu'on crée des personnages, on a comme objectif d'en savoir plus sur les personnages que ce qu'on va en livrer au lecteur. C'est ce qui donne la profondeur au personnage.
Dans les deux premiers tomes de la triade irlandaise, on vit l'Irlande, mais on vit aussi l'Albanie. Oui. Qu'est-ce que ces deux pays ont de commun ?
Ces deux pays ont de commun un mot qui s'appelle le clan. C'est-à-dire que les clans irlandais existent et les clans albanais existent. Et la notion clanique est très importante, pour des raisons différentes, mais aussi bien en Irlande qu'en Albanie.
On vous connaît également donc sous le nom d'un projet à quatre mains, vous en parliez tout à l'heure, comme on dit dans le monde de la littérature, Page Command avec Yann Manouk. Oui. Vous vous êtes rencontrés où, quand et comment ?
Alors, on s'est rencontrés la toute première fois à un salon où il y avait Norek, c'était à Clermont-Ferrand, c'est dans les années 2012. On a sympathisé, on s'est revus plusieurs fois, et puis on a commencé à s'envoyer des bouts de livres qu'on essayait d'écrire, pour avoir un avis éclairé. Et petit à petit, ça a généré une envie d'aller plus loin. Donc il y a 3-4 ans, quand on a commencé d'écrire Sarah, on a dit un jour, écoute, à force d'échanger des textes, on n'a qu'à en faire un ensemble, on va gagner du temps. Voilà, c'est comme ça que Souviens-toi de Sarah est née.
Comment avez-vous choisi votre nom de romancier, Page Command, un nom à consonance anglaise quand même ?
Oh là, parce qu'on est des vieux grigous. Page, c'est les deux premières lettres du prénom de Manouk, Patrick, et j'ai... C'est le bien, non. Gérard, donc ça fait Page. Et Command, c'est Coquet Manouk, donc Page Command.
Qu'est-ce qui vous rassemble, Yann Manouk, et vous ?
Ce qui nous rassemble surtout, c'est la manière de concevoir l'écriture comme un exercice passionnant. C'est d'échanger sur les mots, sur les phrases. C'est de cuisiner. On aime la cuisine des mots. Voilà. Je crois que c'est le plus gros point commun qu'on a ensemble.
Comment écrit-on un roman à quatre mains ?
D'abord, on met son ego sous son bouchoir.
C'est dur, ça, non ?
Bah, non, c'est pas dur, il suffit de le savoir. Ouais. Mais il faut vraiment le faire. Et puis, dans le premier, c'était assez simple, parce qu'il y a une double temporalité. Donc, il y en a un qui a écrit les mémoires de Sarah et l'autre qui a écrit l'enquête sur ses mémoires. Donc, moi, j'ai écrit les mémoires et Patrick, enfin, Yann Manouk qui a écrit l'enquête. Le deuxième, Outaouais, ça a été fait d'une manière différente. J'ai tout écrit, je lui ai envoyé, il a tout corrigé, il m'a envoyé, j'ai tout corrigé. On a fait ses allers-retours pendant plusieurs fois. Et puis au bout d'un moment, on a dit on arrête, allez.
On y va.
Donc on a rajouté des choses ensemble, etc. Et pour le Bomian, qui est le dernier, là, ça a été encore différent. On avait un déroulé de l'histoire qui était complet. Et on écrivait des bouts chacun qu'on s'échangeait. On accepte systématiquement toutes les corrections que l'autre propose. On ne conteste pas. Et on avance pour tricoter le pull complètement. Quoi.
Donc en fait, chacun fait le métier d'éditeur pour l'autre et inversement ?
C'est ça.
Après le superbe roman Souviens-toi de Sarah, hein, qui se passe au Royaume-Uni, et Outaouais avec l'Irlande et le Québec, oui. Vous restez en France. Oui. Et du côté des Alpes de Haute-Provence avec le Bomian, paru le 4 juillet 2024, oui, aux éditions M+, vous n'aviez pas envie de voyager loin là ?
Non, on avait envie d'écrire à la manière d'eux. Parce que ça fait partie de nos discussions quand on est ensemble. Et un jour, on s'est trouvé à la maison et on parlait de livres d'écriture. On aime beaucoup tous les deux Frank Bouys, c'est ce qu'il a écrit. On trouve qu'il a une très belle écriture. Et on s'est dit, tiens, on va sortir du cadre classique. Pourquoi rester dans le noir, le polar, sous toutes ses formes ? Outaouais, c'est un roman d'aventure. Donc, c'est un peu la marque de fabrique de Page Command de vouloir aller dans des décors qui ne sont pas les siens. Donc, le Bomian collait au cahier des charges.
Trois romans signés Page Command en deux ans, c'est un rythme assez soutenu. Ça laisse du temps pour ses propres projets littéraires.
Pour Yann Manouk, oui, parce que des projets littéraires, il en a toujours au moins trois ou quatre qui sont en train de cuire. Moi, c'est un peu différent, j'écris moins vite. J'en ai un autre là, qui est en cours. On en a aussi un autre ensemble. Oui, donc ça avance tout doucement.
Si on suit votre logique de sortie chez M+ Éditions, le troisième tome de la triade irlandaise devrait sortir bientôt et sera une refonte complète de votre roman Mayfly.
C'est ça, et il sort au mois de mars.
Écrire, c'est devenu plus qu'une passion, j'imagine. C'est devenu quoi, une drogue, un métier, une fin en soi?
Non, c'est
un plaisir.
C'est un très grand plaisir.
C'est une drogue?
C'est pas une drogue. C'est un moyen de se poser. C'est un moyen de se parler aussi. Et puis ça génère tout un tas de rencontres derrière avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Oui.
Justement, on parle de rencontres. Vous allez régulièrement, très régulièrement, à la rencontre de votre public. Les séances dédicaces, vous aimez ça?
Oui, bien sûr.
Oui. Les ambiances des salons également?
Bien sûr.
À quoi ressemblent vos lectrices et vos lecteurs? Est-ce qu'ils vous ressemblent?
Oh non, ils ne me ressemblent pas. Heureusement d'ailleurs, les pauvres. Non, ils sont eux-mêmes. C'est à nous de savoir, les auteurs, d'aller chercher le public. Un lecteur, enfin une lectrice ou un lecteur, quand il vient dans votre livre, il sort d'un livre. Il vient de quelque part. Donc il faut savoir aller le chercher, il faut savoir l'attraper, il faut savoir lui plaire. Et puis quand il sort du livre, il faut l'empêcher d'aller dans un autre. Alors je sais bien que ce n'est pas possible, mais bon, c'est ce à quoi on rêve tous.
Vous avez le temps, vous prenez le temps de lire encore les livres des autres, encore aujourd'hui?
Ah oui, oui. Alors en ce moment, je lis beaucoup de Manouk parce qu'il est en train d'en terminer un et il m'a demandé de mettre mon grain de sel là-dedans. Ça s'appelle Débâcle, ça sortira chez Paulsen. Oui, j'ai lu Ouri, le Goncourt, que j'ai trouvé... très bien écrit, difficile à lire, difficile à supporter parce que c'est la description de quelque chose
d'assez
violent. Par contre, c'est très beau, il y a des images très belles. C'est un beau bouquin. Ouais.
Bien. Allez, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture. Nous cherchons la même aventure sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Alors Gérard, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
C'est Stella et l'Amérique de Incardona. Joseph Incardona.
Qu'est-ce que ça raconte alors?
Ouh là là, va falloir éteindre. Faut coucher les enfants, là, s'il vous plaît. Ça raconte l'histoire d'une fille qui est une prostituée qui guérit ses clients quand elle couche avec eux. Ça arrive aux oreilles du Vatican qui décide d'en faire une sainte, mais qui se trouve confrontée au problème suivant. On ne peut pas faire d'une prostituée une sainte. Donc le Vatican décide d'envoyer des gardes suisses tueurs à gages pour s'occuper du cas de Stella. C'est absolument succulent.
Le titre ?
Stella et l'Amérique.
De
Joseph Incardona. J'ai beaucoup aimé aussi, mais je l'avais lu avant, donc ce n'était pas le dernier, mais j'en parle aussi parce que j'ai beaucoup aimé ce bouquin-là, qui s'appelle Les Gentils, par Michael Mention. C'est une histoire absurde d'une obsession. Le pitch rapide, c'est un homme qui va acheter des pains au chocolat un dimanche matin à la boulangerie. La boulangerie est attaquée par un fou qui veut prendre le tiroir caisse. Et sa fille meurt dans la fille du gars qui vient acheter les pains au chocolat meurt. Il n'a comme point de repère qu'un tatouage que le gars avait sur l'épaule. Et il va se mettre en quête de chercher ce tatouage partout. C'est succulent aussi.
Et ça s'appelle ?
Ça s'appelle Les Gentils.
De Michael Mention.
Michael Mention.
Côté coup de cœur, notons le livre de Rachid Benzine, Les Silences des Pères aux éditions Point. Le premier roman de Bénédicte Dupré-Latour, Terre Promise aux éditions Du Penseur. Le thriller d'Olivier Petiot, Jeu de rôle aux éditions Even Dreams. Deuxième roman de Gaël Faye, Bajacaranda, paru aux éditions Grasset.
Excellent.
Excellent. Hein.
Ah oui. Prix
Renaudot mérité.
Ah, largement, voire plus si affinité.
Ouais. Moi, j'aurais préféré Olivier Noirec, mais tant pis.
Allez, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Le nouveau thriller d'Ophélie Cohen, Sorginac, aux éditions IFS. Le roman de Cécile Cabanac, A pleurer, tout nous condamne, aux éditions Fleuve Noir. Le nouveau polar historique de Fabrice Papillon, La conjuration de Dante, aux éditions du Seuil.
Ça doit être excellent, Papillon, c'est toujours excellent.
Ah ouais, c'est bon, ouais.
Cabanac aussi. Hein.
Le nouveau roman de Gaël Perrin-Guillet, La régulation, aux éditions Outre-Fleuve. Il y a également le quatrième tome du Bureau des affaires occulte d'Éric Foissier, Le chant maléfique aux éditions Albin Michel. Le roman de Kamel Daoud, tu en parlais, Ouris, prix Goncourt 2024 aux éditions Gallimard. Le polar d'Olivier Patry, Crémation aux éditions M+. Et le roman de Dominique Luciani, Anachronique, toujours aux éditions M+. Ben, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Gérard Coquet, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Un plaisir.
Plaisir partagé. Rappelons que votre dernier roman sous votre nom, Moorland, le tome 2 de la triade irlandaise, est paru le 4 avril 2024 aux éditions M+.
Oui.
Peut se procurer où, sans oublier vos autres romans sous votre nom ou celui du projet A4, mais avec Yann Manouk, Page Common, et le dernier roman, Le Baumian, toujours aux éditions M+.
Bah, partout. Enfin, j'espère. Non, ils sont bien diffusés. Au centre culturel de Bénaud. Ça, c'est sûr.
On peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux, sans oublier le site Internet de votre éditeur, mplusédition.fr.
C'est ça.
Gérard, bonne chance pour la suite de vos aventures, de tes aventures de romancier.
Allez, on va dire romancier.
C'est bien. Bonne séance de dédicace, bien sûr.
Merci.
Et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt.
Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque.